Des problèmes ? Il y en a des tas. Ton portable qui n'a plus de batterie. Le sac de course qui lâche au milieu de l'escalier. Ton pied qui vient s'écraser par accident contre la table basse. Ce superbe mec qui ne répond plus à tes messages. Les clés restées dans la bagnole. Ta prof de français qui arrive 9 minutes après le début du cours. Et puis la fonte des glaciers, la guerre, la pandémie, leur crise, la course effrénée du capital et l'ampoule du salon qui lâche sous tes yeux. Ah, on n'est pas bien là. Le monde change et on pourrait raconter la vie autrement. Trouver des chemins de traverse, arpenter de nouveaux sentiers. Et c'est justement ce que l'on vous propose avec cette émission, de découvrir ces gens qui ont pris la tangente, qui savent que l'avenir est déjà là. Alors avec toute notre équipe, on a décidé de prendre la clé des champs et de voyager à travers la Normandie. Son cidre fou, ses vaches, brunes, blanches et noires, son houblon, ses artisans, ses producteurs et ses acteurs du changement. Cette région qui semblait si quotidienne à nos yeux et qui recèle en fait de nombreuses surprises. Toujours autant de pluie en Normandie. Mais qu'en est-il de son soleil qui coule en nous ? Aujourd'hui, nous prenons la direction du Pays d'Auge. Les pommiers en fleurs côtoient les vaches noires et blanches. Nous voici au Torquen, un village au nom évocateur, le Chêne Tordu, perché à mi-chemin entre Lisieux et Pont-l'Évêque, aux portes de Cabourg et Deauville. La carte postale normande est la destination rêvée pour de nombreux citadins. Ici, dans cet écrin de verdure, typiquement augeron, une ancienne enseignante a troqué la salle de classe pour son laboratoire de cuisine. À l'intérieur, entre le four, les fouets, les culs de poule, le zester, les balances de précision, les moules attendent patiemment de donner naissance à des cookies, sablés et gaufres. Sur les plans de travail, pas un gramme de farine de blé, pas une trace de gluten. Ici, tout est pensé pour régaler les intolérants sans jamais rien sacrifier au plaisir. Mais les ateliers chocolat courgette, c'est aussi un projet de transmission, où les enfants apprennent à cuisiner leur premier gâteau en s'amusant. Car derrière les fourneaux, l'enseignante n'est jamais bien loin. Vous l'aurez deviné, nous sommes chez Isabelle Doss, biscuitière et traiteuse spécialisée dans le sans gluten, fondatrice des ateliers chocolat courgette, un nom facétieux pour une femme passionnée, qui a décidé de faire de son intolérance une force et de sa reconversion une réussite. Isabelle, bonjour.
Bonjour Romuald.
Alors aujourd'hui, on va revenir un peu sur effectivement les ateliers chocolat courgette, le travail autour du sans gluten. Mais avant, je parlais d'enseignante. Ça serait bien qu'on revienne un peu sur ce qui vous a amené à passer de enseignante à biscuitière. Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait voilà que vous avez décidé de quitter le métier de l'enseignement que vous aimez toujours ?
Oui.
Et pour aller faire autre chose.
En fait, j'adorais mon métier, le fait de transmettre à des enfants, de découvrir énormément de choses avec eux. Mais moi, je découvrais beaucoup avec les enfants. Et puis un jour, en fait, j'ai été malade. Et je me suis raccrochée vraiment à l'essentiel, la famille. Il a fallu que je change de régime alimentaire. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pris conscience que il me manquait quelque chose. Et
il vous manquait quelque chose, c'est-à-dire une harmonie dans la vie,
un rééquilibrage, que ce D'accord. soit au niveau nourriture, mais rééquilibrage aussi de ma vie. Mmh. C'est l'époque où j'ai commencé déjà à faire un peu plus. J'étais avec des maternelles, je faisais un peu plus d'ateliers cuisine. Et vraiment, ça me plaisait. Et puis, un jour, j'ai décidé de partir, faire autre chose et de me former en cuisine.
Et donc, de vous former, évidemment, au sans gluten, puisque c'est une intolérance au gluten que vous avez...
Je ne supporte pas le gluten et ça...
Vous ne supportez plus le gluten, c'est ça ?
Je l'ai supporté, certainement que depuis toute petite, j'avais quand même des soucis liés au gluten, mais je ne le savais pas, parce qu'on n'en parlait pas énormément avant. Et là, vraiment, le gluten me provoque des maladies auto-immunes. Enfin, moi, je le vois comme ça.
D'accord.
Parce que à partir du moment où j'ai arrêté le gluten, tout a été mieux.
Ah oui.
Voilà.
Non, c'est vraiment un mal moderne, le gluten, dans notre... Peut-être parce qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'il est présent naturellement dans beaucoup d'aliments.
Voilà.
C'est pas forcément quelque chose qui est censé nous provoquer des maladies.
Non,
mais
c'est...
pour autant c'est quelque chose qui à haute dose on en consomme trop en ce moment.
Voilà, et puis peut-être que maintenant on en rajoute partout, en fait. Oui. Ça serait pour les produits soient beaucoup plus moelleux, croustillants.
Oui, c'est ça, parce qu'on voilà. En discutait avec le boulanger, la Fallu, effectivement, c'est quelque part aussi, ça permet d'aérer le pain, le gluten, ça permet aussi de stocker un peu d'humidité, donc ça rend le pain plus lourd, et du coup, on en rajoute dans les,
voilà.
dans les
mais,
recettes.
Mais le problème, c'est que voilà, pour les gens qui sont intolérants ou qui ont une petite sensibilité, ça leur fait plus de mal que de bien.
C'est ça.
Mais après, moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est que c'est, on peut manger, quand, si on n'est pas intolérant au gluten, on peut manger du sans gluten, mais il ne faut pas complètement abandonner le gluten, parce que pour le coup, on deviendrait vraiment intolérant. Et
oui.
c'est, voilà. Mais on peut se faire plaisir en en mangeant moins.
Ben oui, c'est ça. Et du coup, alors, pour passer du métier d'enseignante à pâtissière, biscuitière, ça veut dire qu'il vous faut une formation. Donc vous avez repassé deux CAP, enfin vous avez passé le CAP de cuisine déjà, d'une part, parce que ça c'est obligatoire
Pour être traiteur, et puis même pour moi, j'avais besoin en fait de me former. Et pour être biscuitière, il n'y a pas besoin de diplôme.
D'accord.
On peut être biscuitière, il y a juste une formation HACCP.
Donc c'est les normes
hygiène et sécurité, voilà, à passer. Mais sinon, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Mais pour moi, enfin, j'ai toujours aimé apprendre.
Okay, donc bah oui. Transmettre
c'est
et
voilà.
Apprendre.
Et il faut toujours, mon cerveau, il carbure, comme ça. J'ai toujours besoin d'apprendre des choses et découvrir des choses. Et donc, je voulais passer le CAP cuisine. Donc, j'ai un chef qui m'a accueilli, parce qu'au départ, à mon âge, c'est pas évident de trouver, se reconvertir. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui acceptent les personnes de plus de 50 ans.
C'est vrai.
Voilà.
Ah
et
oui, ça, c'est une difficulté, c'est intéressant.
Assez.
Ouais.
Et donc, du coup, il y a un chef c'est grâce à des parents d'élèves qui m'ont dit, ah, on a des clients restaurateurs. Et ils m'ont renvoyé vers ce chef à Beaufour-Druval qui, lui, m'a pris sans problème. Donc, j'ai fait un peu de service. Je passais par. Et puis petit à petit, il m'a mis à la préparation des entrées. Et puis il m'a aidé. En fait, c'est vraiment lui qui m'a donné l'envie de me former en cuisine.
Okay.
Et ça, c'était, c'était très bien.
C'est intéressant parce qu'il y a eu donc le CAP de cuisine grâce à ce chef. Et puis après, vous avez dit, je vais faire aussi un CAP de pâtisserie.
Voilà, me former, parce que pour moi, même si on n'a pas besoin de diplôme, j'avais besoin de savoir, d'en savoir plus. Quoi. Pour être biscuitière, je pense que c'est... Faut vraiment connaître un peu les matières premières.
Oui, c'est plus technique, là, tout ce qui est sucré, en fait. En général, on peut se lâcher un petit peu dans le salé.
Voilà.
Alors que la pâtisserie, c'est, il faut
la
vraiment
pâtisserie, respecter. C'est au gramme près, Et, et la pâtisserie sans gluten, c'est vraiment... On ne peut pas adapter des recettes comme ça, puisque les farines sans gluten ne vont pas se comporter de la même manière qu'une farine de blé. Ce sont des farines qui vont beaucoup plus absorber l'humidité. Donc, s'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, il faut tout adapter.
Oui,
et c'est...
Il y a un peu de chimie dans tout ça, quand
voilà.
même.
Voilà. Et quand on arrive, quand on connaît bien ces matières, après, on sait exactement que un cookie, ça devrait avoir telle texture pour que ça ressorte de telle ou telle manière à la sortie du four.
Il y a beaucoup de tests, beaucoup de R&D, de recherche et développement à faire avant de se lancer dans le... Parce que les farines que vous utilisez, c'est quoi alors? C'est quoi les alternatives?
Moi, j'utilise beaucoup la farine de riz complet, la fécule de pommes de terre, la fécule de maïs, fécule de manioc aussi, par exemple, pour faire des crêpes sans gluten, la fécule de manioc va donner vraiment... on va avoir l'impression de manger des crêpes avec gluten. Mais il n'y aura pas ce...
Parce que ça change le goût.
Ça change le goût. Voilà, on peut utiliser du sarrasin aussi sans gluten, parce que parfois il y a certains sarrasins où il y a des traces de gluten. Tout dépend de comment est faite la farine. Et voilà, il y a des farines de lupin, mais il faut savoir que le lupin aussi, ça fait partie de la liste des allergènes. Donc, et on peut travailler aussi avec des farines d'amandes, farines,
farines de
coco. Voilà, on a un choix.
On dit que l'épeautre, le grand épeautre.
Alors, c'est le petit épeautre.
C'est le petit épeautre
qui aura moins de gluten, mais il peut y avoir des traces de gluten.
Oui, quand on est...
Les allergiques.
Les allergiques, ce n'est pas possible. Quand on est intolérant, il y en a très peu, donc on peut...
Ça peut passer. Il faut voir à quel niveau ce qu'on supporte.
Le petit épeautre, c'est du blé, mais c'est une variété ancienne de blé, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Il y a certains blés anciens, je vois, où il y a moins de problèmes pour les intolérants.
D'accord. La farine de châtaigne aussi,
c'est des farine de peut... châtaigne, voilà.
Oui. Donc là, j'imagine que c'est encore plus créatif que la pâtisserie traditionnelle, parce qu'il y a des goûts un peu particuliers qui vont sortir de ces nouvelles recettes. Donc ça veut dire qu'on peut créer 1000 cookies, enfin, j'exagère, mais...
Exactement, on peut créer des choses complètement différentes et avoir en fait des... C'est vraiment, on travaille sur les textures. Après, moi, je ne suis pas pâtissière d'origine, donc j'utilise les termes qui me sont, voilà, que je connais, mais c'est vrai que moi, quand je crée quelque chose, en fait, je vais vraiment sentir les odeurs. C'est-à-dire, ouais. Je vais mettre de la vanille avec des fruits, et je sens les parfums. Et je me dis, si ça va bien ensemble, si ça me donne envie, ben, je vais essayer, je vais tester quelque chose et mélanger tout ça. Et puis, j'essaye de faire des gâteaux moins sucrés.
Oui, il y a aussi ça. C'est-à-dire que quand on est engagé dans ces démarches-là, c'est-à-dire que c'est une pensée un peu plus globale. On va réduire le sucre, on va vraiment travailler avec des fruits... de qualité, on sort complètement d'un schéma industriel et plein de pesticides. Enfin voilà.
On réinvente des recettes, mais on adapte en partie, mais il y a beaucoup quand même de création parce que c'est complètement différent de la pâtisserie avec gluten. Et je vois, pour limiter le sucre, en fait, il y a énormément de...
Il y a des alternatives pour limiter le sucre.
Il y a énormément d'aliments qui
sont naturellement sucrés.
Par exemple, la patate douce, on peut faire des petits... des ganaches patate douce chocolat pour faire des... Entre le fondant au chocolat, la mousse au chocolat, juste avec de la patate douce, du chocolat.
La courgette.
La courgette, voilà, qui va remplacer le beurre et... tout ce qui est... pour les purées de fruits.
Oui, les purées de fruits, ça veut dire qu'on met pas de sucre, en fait, il y en a naturellement et on apprend aux gens, on fait
compoter tout doucement, puis on fait réduire et en fait le sucre du fruit va ressortir beaucoup plus sans en rajouter.
Et la saveur du fruit.
Voilà, et puis dans ce qui est de plus, les biscuits plus salés aussi, parfois l'oignon, on va donner en fait l'oignon. Ah oui. Si on le fait caraméliser, en fait,
il est sucré.
Et donc, on arrive à trouver des...
Ah, c'est incroyable.
Et la farine de châtaigne aussi est sucrée. Donc, en fait, on n'a pas besoin...
de rajouter du sucre.
Voilà.
Et donc, on apprend et on transmet. Parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que vous continuez, je le disais en introduction, c'est les ateliers chocolat courgette. Donc, il y a toute la partie production, traiteur, où vous allez vendre des produits. Mais... je disais, l'enseignante n'est jamais très loin. Ça veut dire qu'il y a aussi cette phase de transmission. Donc, vous travaillez beaucoup avec des enfants. Comment ça se passe si vous faites des ateliers? Vous proposez des ateliers, proposez d'aller dans les écoles ou dans les MJC? Comment ça se passe exactement ce travail avec le jeune public?
Je travaille plutôt avec des associations et puis pour des ateliers zéro déchet ou batch cooking, voilà. Et sinon, je vais au domicile des personnes. Et puis, bon, je peux proposer des ateliers pour les enfants, pour des fêtes d'anniversaire, par exemple. On fait le gâteau d'anniversaire avec les enfants directement. On peut faire les décorations avec décorations en chocolat, pour avoir un effet waouh pour le gâteau. Mais Ça plaît toujours aussi aux enfants d'utiliser une petite poche à douille.
Oui, ça apprend aussi l'autonomie, un savoir-faire. C'est là où on se dit, tiens, il y a l'enseignante derrière qui se dit, bon, j'ai un projet de faire un gâteau, mais je vais peut-être leur apprendre, parce qu'on fait des maths quand on fait de la pâtisserie.
C'est ça, on fait beaucoup de maths. Oui. C'est des maths, mais des maths appliquées. Et les enfants, ils voient un sens. C'est vrai, en classe, bon, j'étais comme ça. Enfin, j'aimais bien tout rapporter au quotidien. Mais c'est vrai que quand il y a une recette, faire une recette en classe, par exemple, on leur fait. Voilà,
c'est très pédagogique.
Il y a les masses, les.
Et puis il y a la motricité aussi, il y a tout un travail, parce que ça veut dire
l'utilisation d'un couteau. Oui. Tout simplement, on a souvent tendance, beaucoup de parents disent non, tu n'utilises pas ce couteau, ça coupe trop. Moi, j'ai un petit couteau qui coupe, mais qui est adapté aux enfants parce qu'il y a un sens, il y a un petit œil, une petite bouche et qui montre. On utilise le couteau dans ce sens et quelque part, leur montrer que si on utilise quelque chose correctement, on ne se blesse pas et qu'il faut être concentré sur ce qu'on fait.
Puis ça peut redonner confiance à des enfants aussi qui sont pas à l'aise avec le français. Là, ils apprennent à lire une recette, pas à l'aise avec les maths.
La lecture, parce que parfois, s'entraîner à lire une recette plusieurs fois, quand on la lit à voix haute, après, on a beaucoup plus d'aisance. C'est vraiment important. Souvent, je reprochais un petit peu, c'est qu'on n'avait jamais le temps de lire ou de faire lire les élèves. Le programme est tellement chargé que ce petit temps de lecture.
C'est apprendre en s'amusant et en faisant.
Voilà. Et puis là, les enfants n'ont pas. Ils sont en atelier, donc chacun va lire la recette à tour de rôle. Et il n'y a pas de jugement. Il y a façon aussi. Je dis toujours aux enfants, je dis oh, tu nous fais une blague, tu veux nous faire croire que c'est ce mot-là. Et voilà, on peut rire. En faisant, quelque part les enfants prennent confiance et puis il y a le résultat. Quand on crée de ses mains, c'est une fierté. Oui. Moi je suis fière de moi quand j'ai réussi à faire un biscuit que tout le monde m'a dit c'est bon et c'est ma petite création et c'est une fierté.
Pour les enfants, c'est une vraie fierté, c'est
important.
D'accord. Alors, on a deux petits points que je voulais aborder. On vous retrouve sur les marchés du Pays d'Auge, principalement Pont-l'Évêque et Livaro. Donc là, vous avez un stand où vous vendez tous vos produits. C'est jamais les mêmes. Ça veut dire que j'imagine qu'il y a quand même...
J'essaye d'avoir toujours une petite nouveauté à faire goûter déjà. Oui. Et puis, puisque j'invite les gens aussi à goûter, j'ai toujours plein de boîtes d'échantillons.
Oui, parce qu'il faut aussi convaincre, parce que vous affichez que c'est sans gluten. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi convaincre les plus sceptiques, les gens qui pourraient croire que c'est quoi cette approche. Donc, c'est quoi le biscuit qui permet de mieux convaincre, enfin, le biscuit ou la pâtisserie qui permet de mieux convaincre les gens? Est-ce que le chocolat, le gâteau au chocolat à la courgette est un best-seller?
Ça dépend quand j'en fais, parce que je fais ça, je respecte les saisons. J'ai parfois, je congèle un peu quelques légumes, tout ça, pour en réutiliser, mais c'est vraiment... Mes produits phares, c'est vraiment la tuile aux amandes, mes gaufres apéritifs salés à l'emmental, et puis mes petits sablés viennois au chocolat. Très souvent on me dit c'est sans gluten, il y a moins de sucre, c'est pas bon quoi. Oui. Voilà, c'est la première réflexion que j'ai très souvent. Et donc, je leur dis, mais goûtez, et puis vous me direz. Oui. Et puis souvent, quand ils goûtent, ils me disent, ah ouais, quand même.
Ouais.
Je demande toujours aux gens de goûter avant d'acheter. Oui. Parce que pour des petits sablés à l'orange, par exemple, qui sont sans beurre, je leur dis, mais on peut aimer On peut aimer l'orange, mais on peut ne pas aimer du tout. Mmh. Et donc,
oui, donc c'est important d'en passer par le voilà. fait de goûter. C'est comme le chocolat courgette, le gâteau, parce que c'est quand même ce qui a donné le nom à l'entreprise. Juste un mot, ça vient d'où pourquoi les ateliers chocolat courgette, justement?
Alors, ça vient de l'école.
Ça vient de l'école.
Voilà, c'est pour l'anecdote. Donc, c'est une année. Donc, j'ai fait le gâteau chocolat courgette en classe. Et bon, j'avais beaucoup d'élèves qui ne mangeaient pas de légumes.
Oui.
Et donc, j'ai dit, on va faire un tour de magie. On va transformer la courgette en chocolat.
Ah.
Alors du coup, on a fait toute la recette, donc les élèves étaient ravis. On prend la courgette, on la mixe, on vide bien le jus et on rajoute du cacao en poudre pour la transformer en chocolat. Et là, les élèves, ils ont dit « Ah oui, ça a vraiment pris la couleur du chocolat, tout. » Et puis, donc, on fait le gâteau, tout se passe bien. Puis arrive la dégustation et puis là... Tout le monde dit, non, il y a de la courgette.
Ah oui, personne ne le savait.
Personne ne voulait goûter. Et j'ai un élève, je vais le citer, Thomas, le petit Thomas, qui me fait comme ça, mais maîtresse, pour te faire plaisir, je vais goûter.
Ah.
Il goûte le gâteau et il me dit, c'est super bon. Et du coup, tout le monde se rue. Le gâteau, en fait, tout le monde a mangé le gâteau. Et là, en fait, ça m'est resté. Et puis, c'est resté comme étant, c'est l'atelier chocolat courgette. Et donc, c'est parti de là.
D'accord.
Voilà. Et puis, je voulais faire aussi un petit travail sur l'orthographe. C'est chocolat, le chocolat, les courgettes.
Ah oui, oula,
et donc c'est pour ça qu'il y a chocolat au singulier, courgette au pluriel, et puis voilà, ça me permet aussi de faire, voilà.
Ah, très bien, on sent l'enseignante effectivement. Et puis peut-être en dernière question, parce qu'on arrive bientôt au bout, mais du coup quand vous vous êtes lancé, vous avez aussi fait le choix d'aller dans une coopérative, de vous lancer sous un statut particulier qu'on appelle entrepreneur salarié. Donc ça, c'était qu'est-ce qui a guidé ce choix d'aller plutôt dans une coopérative d'emploi plutôt que de vous lancer en auto-entreprise?
Alors, quand j'ai voulu me lancer, en fait, je devais monter une auto-entreprise et ça passait pas. Enfin, je ne sais pas pourquoi, ça me bloquait. Donc, j'avais fait la formation avec Pôle emploi, maintenant France Travail, sur la création d'entreprise. Et en fait, je n'ai quasiment rien écouté à partir du moment où ils ont parlé de CréaCop 14.
Ah.
Et ils ont fait une petite présentation très succincte et ils ont parlé d'une réunion d'information. Et là, ça a été le... Et après, oui. J'entendais plus que du blabla et je me suis dit, CréaCop 14, c'est
ça
pour moi.
Ça a l'air de me correspondre.
Et j'ai été à la réunion où j'ai rencontré les accompagnatrices, voilà. Et puis là, franchement, ça m'a...
Il faut expliquer un petit peu, c'est-à-dire qu'on rentre dans la coopérative, on est accompagné par des personnes qui vont nous aider à créer pas notre entreprise au sens juridique du terme, mais à créer notre entreprise hébergée dans une coopérative.
Hébergée dans une SCOP et... Finalement,
une société coopérative.
Voilà, société coopérative. Mmh. Et donc, du coup, en fait, on est formé. On arrive, on a pendant un temps, une fois par semaine, on est formé, on apprend les rudiments de la gestion, le marketing, on a un outil commun pour faire les factures. On est accompagné, mais...
Oui, donc c'est plus facile de se lancer
beaucoup plus facile,
plus rassurant.
Et puis on arrive avec un groupe d'entrepreneurs, donc on se soutient, on se motive entre nous. Tous les mois, on est accompagné et on est un peu coaché.
Oui.
Et c'est vrai que, en fait, c'est rassurant. Pour moi, c'est mon petit cocon.
Oui.
Et c'est vrai que, à partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, je peux me lancer. Et j'avais moins peur.
Oui.
Bien moins peur et on n'est pas tout seul. Et
oui, ça,
c'est
rassure.
Vraiment...
On peut travailler en collectif, rencontrer d'autres personnes. Sentir qu'on n'est pas seul dans cette démarche, parce que créer son entreprise individuelle, c'est individuel, on est tout seul.
Et puis c'est vraiment des... Enfin, créer son entreprise tout seul, c'est se mettre à part. Moi, j'avais besoin de contact, en fait.
Oui.
Et là, j'en ai toujours du contact. J'en ai sur les marchés, mais je sais que je peux discuter avec énormément d'entrepreneurs qui sont dans la SCOP et qui... et qui me font du bien. Ça fait du bien au moral, c'est un côté agréable, c'est mon petit cocon. Voilà.
Donc pour ceux qui souhaitent se lancer, il faut le faire effectivement.
Ah, oui,
si on a peur de se lancer, on peut se faire accompagner, ça permet aussi de tester des choses et puis ça permet d'y aller en douceur.
Et avec
de l'accompagnement. Le mot accompagnement,
voilà,
est quand même important.
Et puis on a 3 ans dans la SCOP, on peut rester 3 ans, mais si on veut rester plus longtemps, on peut devenir associé.
Et
moi là, c'est ce que ben, je compte faire très bientôt. Voilà, j'aimerais passer associé parce que je vais arriver au bout de mes 3 ans. Et si je passe associé, ben, pour moi, ce sera vraiment continuer l'aventure, mais tout en étant accompagné, avoir gardé
ce lien
et garder ce petit cocon.
D'accord. Bon, on a un peu débordé, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Et surtout, on va se quitter en musique parce qu'on finit toujours notre émission par une carte blanche laissée à nos invités. Et aujourd'hui, on va se quitter avec Bonheur pour moi, Bourvil et la balade irlandaise. Merci beaucoup Isabelle. Et puis, on se retrouve dans un autre épisode. Et je vous invite vraiment à aller au Chêne Tordu, entre Lisieux et Pont-l'Évêque, à Torquen, pour aller découvrir, et puis sur les marchés surtout de Livaro et de Pont-l'Évêque. Merci Isabelle.
Merci Romuald.
Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi, près de la rivière où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. L'eau de la rivière fleure la bruyère, et ton sommeil est à moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire?